Bonsoir. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnent en des termes forts le massacre contre les civils près de Beni au nord Kivu. Province orientale, le chef rebelle Banaloki alias Cobra Matata s'est rendu le week-end dernier au FRDC à Bunia. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Félix Kabouzi, le directeur des publications du journal La Référence Plus. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Félix Kabouzi.
Bonsoir Guy.
Albert Omba, il est journaliste à Tropicana FM, une radio émettant de Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Oui, bonsoir Guy.
Et Clément Mangoubou, éditeur et responsable du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Bonsoir Clément Mangoubou.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le massacre de Beni à Ituri. Cobra Matata annonce sa reddition. Comment la presse a analysé cette actualité? Nous allons écouter cette revue de presse que nous présente Kelly Nkouté.
Bonsoir. Commençons par Beni où l'Observateur rapporte que plusieurs dizaines de personnes ont été tuées une fois de plus, massacrées dans le territoire de Beni. Décidément, le territoire de Beni demeure un mouroir tant les massacres sont devenus le lot quotidien des habitants de ce territoire. Forum des As souligne que c'est entre 50 et 80 personnes qui ont été massacrées à la hache au cours de l'attaque de vendredi. Des hommes ont tenu des FRDC et armé des mitraillettes automatiques ont fait irruption au centre du village où la population les a rejoints croyant qu'il s'agissait de loyalistes. Quelques instants après, ils sont rapidement passés à l'action, rejoints par un autre groupe armé des machettes et des haches. Le potentiel note qu'à ce jour, plus de 200 Congolais ont déjà été tués dans les conditions les plus horribles. À Kinshasa, rapporte le tabloïd, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il y a des complicités des personnalités congolaises à tous les niveaux des institutions dans le terrorisme à Beni. Déclaration qui reste muette sur les noms et par conséquent entretient le suspense. L'avenir enchérit que le porte-parole du gouvernement a promis que les enquêtes et poursuites pénales éventuelles vont s'étendre aussi bien aux exécutants qu'aux commanditaires. Quittant Beni pour l'Ituri où le potentiel rapporte que le chef rebelle Cobra Matata, de son vrai nom Banaloki Matata, du Front des Résistances Patriotiques de l'Ituri, s'est rendu dans la soirée du 21 novembre aux autorités congolaises à Bunia dans la province orientale. Le quotidien ajoute toutefois que le gouvernement ne s'étant pas encore prononcé sur la satisfaction ou non des deux principales revendications du chef rebelle, à savoir l'amnistie générale et la reconnaissance des grades que ces hommes et lui-même avaient dans le groupe armé. Il est impossible de savoir à l'avance le sort qui lui sera réservé. L'Observateur renchérit qu'après moult tergiversations et volte-face, la reddition de Cobra Matata est finalement effective depuis vendredi 21 novembre. Le journal informe que c'est avec 9 officiers de son groupe armé que le chef rebelle s'est rendu. Pour sa part, Forum des rappelle que les FRPI est l'une de nombreuses milices qui se sont affrontées en Ituri dès 1999 à 2007 sur des bases essentiellement ethniques pour le contrôle des richesses naturelles de ce district. Plusieurs milliers des combattants FRPI avaient été démobilisés et intégrés dans l'armée congolaise de 2004 à 2006, mais le groupe avait commencé à se reconstituer fin 2007. Cobra Matata a pris le contrôle du FRPI en 2010 après avoir déserté les FRDC.
Merci Kelly Nkouté. Félix Kabouzi, directeur de publication du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le 15e sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui à Dakar, au Sénégal.
Oui, un grand sommet parce que vous savez que la France et les pays membres de la francophonie doivent, entre autres, élire un nouveau secrétaire général. Parce que le président Abdou Diouf, après une dizaine d'années passées à la tête de la francophonie, devrait en principe prendre sa retraite. Alors on est intéressé à connaître qui va être son successeur parmi les 5 candidats qui se bousculent au portillon. Je crois que c'est l'intérêt le plus évident.
Il faut rappeler qu'il y a un Congolais qui est parmi les candidats. Docteur,
plus le Congolais de Brazzaville qui est en vue, mais je pense que le nôtre n'a pas eu.
Le docteur Lossekin.
Lossekin n'a pas eu, en tout cas, le cutus du gouvernement pour être candidat à ce poste-là. Je pense que c'est plutôt le Congolais de Brazzaville qui est le plus en vue et probablement celui qui pourrait succéder à Vidouf.
Lopez.
Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet de Kinshasa. L'autre actualité, c'est ces premiers groupes composés des 217 ex-combattants rwandais et leurs dépendants qui est arrivé hier jeudi à Kisangani en provenance du nord et sud Kivu.
Oui, je crois que c'est déjà une ouverture pour la paix de ce côté-là, parce que l'ultimatum qui a été lancé contre le FDLR devait expirer le 31 de ce mois, et le FDLR ne voulait pas continuer leur édition. Il y avait un blocage, et comme la voix s'est élevée au niveau du gouvernement, au niveau de la SADC, je crois qu'ils ont beaucoup réfléchi pour accepter d'aller à Kisangani. C'est déjà une bonne chose.
Clément Mangoubou, éditeur et responsable du journal Le Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. Un mot au sujet de l'arrivée des 217 FDLR et leurs dépendants à Kisangani.
Oui, il faut dire qu'ici, la population attend voir, mais elle s'aligne un peu sur la vision du gouvernement qui veut que ces FDLR viennent à Kisangani pour être rapatriés soit au Rwanda ou alors gagner un pays où ils peuvent aller vivre en dehors de Kisangani. Parce que pour la population, la paix est capitale, la paix est primordiale. Mais si c'est au nom de la paix que ces gens peuvent transiter par ici, la population pense que il faut soutenir l'initiative du gouvernement.
Félix Abouzi, l'autre actualité, c'est aussi cet incendie lundi dernier dans l'entrepôt de la DGD à Kasumbalesa au Katanga. Bilan très lourd des pertes en vie humaine et des dégâts matériels très importants.
Oui, mais je pense que il faudrait vraiment qu'on sache ce qui s'est passé réellement. On a parlé d'une collision entre
deux camions.
Mais comment se fait-il que dans un poste comme celui-là, qu'on n'ait pas pu maîtriser un tel incendie? Est-ce que vraiment le dispositif anti-incendie est-ce qu'il est vraiment de rigueur sur ce poste-là? Puisque quand on parle d'une centaine de véhicules incendiés et que ça a pris des heures et des heures pour qu'on arrive à maîtriser ça, je pense que probablement que le dispositif anti-incendie n'a pas fonctionné. Et dans pareille situation, je pense qu'il faudrait mener des enquêtes et éventuellement sanctionner les coupables.
Et puis quand vous arrivez sur place, la question que l'on se pose, c'est celle de savoir pourquoi on peut garder un nombre aussi important de véhicules à cet endroit-là.
C'est ça, justement, c'est que probablement que la gestion de ce poste douanier-là n'est pas efficiente, parce que un poste comme celui-là n'est pas un endroit où garer une centaine de véhicules. Les véhicules, lorsqu'ils viennent et que leurs documents sont en ordre, ils ne devraient même pas faire 30-40 minutes à un poste. C'est vraiment pour passer et aller livrer la cargaison là où on en a besoin. Je pense que, chez nous, je crois qu'il y a beaucoup toujours de tracasseries, comme on dit. C'est des endroits où, au lieu de deux ou trois services, vous en trouvez une dizaine. Chacun se livre, n'est-ce pas, à des choses qu'il veut faire. Et je lisais hier qu'il y aurait même les militants ou la jeunesse d'un parti politique en vue, dans le Katanga là-bas, qui opérerait autour de ce poste-là, et qu'il serait même en conflit avec un ministre de la République. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait chercher à éclaircir autour de ce qui s'est passé là-bas.
Albert Omba, et moi, au sujet de cet incendie à Kasumbalesa.
Bon, c'est dommage parce que un poste frontalier, c'est un endroit où il y a quand même une gestion assez claire. D'abord, un dispositif qui permet à ce que le véhicule circule librement. Comment on a pu mélanger des véhicules qui transportent du carburant avec d'autres véhicules à stationnement? Et donc, c'est dans ce remis-ménage ou ce cafouillage que l'accident est arrivé. Et puis, comme le grand frère Kabouz a dit, comment on ne peut pas maîtriser un incendie qui peut aboutir à une centaine de véhicules qui sont brûlés à cause de l'incendie? C'est vraiment dommage.
Clément Ngoubou, l'actualité aujourd'hui à Kisangani?
Bon, à Kisangani, l'actualité, c'est le pèlerinage à Isiro pour les 50 ans de l'assassinat de la sœur Anouarité. Les gens sont en train de partir et tout le monde attend fêter cet événement avec facilité. Et déjà, le gouvernement provincial une série d'activités autour de cette célébration-là et qui vont citer justement le lundi 1er décembre par la célébration des de cet anniversaire de l'assassinat de la sœur Anne-Marité.
Merci. Notre premier thème de ce soir, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnent en des termes forts le massacre contre les civils près de Beni au nord Kivu. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué rendu public mercredi dernier depuis New York. Paul Matendo pour les détails.
Dans ce communiqué, les membres du Conseil de sécurité indiquent qu'avec ces massacres, le nombre des civils tués depuis mi-octobre dans la région a augmenté à environ 200 morts. Ils expriment leurs condoléances aux familles des victimes. Le Conseil de sécurité a par ailleurs condamné les attaques ciblées contre les casques bleus de la MONUSCO. Il souligne que les efforts pour nuire à la capacité de la MONUSCO de mettre en œuvre son mandat ne seront pas tolérés. Les auteurs de ces attaques seront tenus pour responsables. Les conseils de sécurité rappellent enfin que le gouvernement et la MONUSCO doivent réduire de façon permanente les menaces contre les civils. Pour cela, ils doivent redoubler leurs efforts pour protéger les civils et neutraliser les forces qui opèrent dans la région. En dehors des ADF, les membres du Conseil de sécurité soulignent la nécessité de neutraliser les FDLR en rapport avec les résolutions du Conseil.
Le gouvernement américain s'est dit très préoccupé des nombreuses attaques contre les civils à Beni. Dans une déclaration faite mercredi dernier par le directeur du bureau des relations avec la presse au département d'État américain, toutes ces attaques ne doivent pas rester impunies. Les États-Unis appellent le gouvernement congolais à ouvrir une enquête approfondie et à faire en sorte que les auteurs de ces crimes rendent compte. Le gouvernement américain demande au FRDC d'intensifier leurs efforts soutenus par la MONUSCO à éradiquer tous les groupes armés illégaux opérant dans l'est du pays. Félix Kabouzi, je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal La Référence Plus, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Plusieurs réactions après les massacres de plus de 200 personnes dans un espace d'un mois et demi dans les territoires de Beni au nord Kivu. Votre analyse?
Bon, l'analyse, c'est d'abord de comprendre, si vous voulez, le sens de ce message. Quel est le message que les auteurs de ce massacre adressent, soit à la population de Beni ou du Nord Kivu en général, soit au gouvernement congolais, soit au pays? Ce message-là, on n'arrive pas à le percevoir précisément. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un massacre aveugle? Est-ce que ce sont des gens qui ont des revendications politiques et lesquelles? Et qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Si vraiment l'objectif est de terroriser simplement la population de Beni, je crois que là, ils y sont parvenus. Parce que depuis que ces massacres-là s'opèrent, je pense que ces populations doivent être totalement apeurées. C'est des gens qui viennent, qui égorgent, qui tuent, et quelques temps après, ils disparaissent. Je pense que le gouvernement devrait faire un peu plus. Parce que finalement, il n'y a pas de paix dans cette partie-là du pays. Et la paix est troublée dans le nord, le sud, depuis une trentaine d'années, et jusque-là, il n'y a toujours pas de réponse. Chaque fois qu'on semble avoir mis plus ou moins en déroute un groupe, un autre se réveille dans les 2-3 jours qui suivent, et ça replonge toujours dans l'insécurité. Je pense que vraiment, on devrait donner de la paix aux gens de Beni et de cette partie de la République, parce que c'est d'abord un coin très important, stratégiquement parlant, économiquement parlant. C'est la plaque tournante des affaires à l'est du pays. Tout ce qui passe par, tout ce qui arrive à Kisangani, à Bunia, qui va vers Goma, ça transite par Beni. Et c'est un poste douanier même important. Je pense que lorsque la paix est troublée dans cette partie du pays, même financièrement, le pays en ressent. Donc, je crois qu'on ne devrait pas faire l'économie des moyens. On a quand même des militaires. C'est d'ailleurs l'une des parties du pays où se concentre le plus grand nombre de militaires. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi des gens peuvent surgir tous les 2, tous les 3, 4 jours, tuer une dizaine de gens, une trentaine, une quarantaine, et on n'arrive toujours vraiment pas à mettre la main, ou si vous voulez, à enrayer cette insécurité-là. Je pense que on ne devrait pas être en paix, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni le Président de l'Assemblée nationale, ni personne dans la sphère politique ne devrait dormir tranquillement chez lui, tant que ce genre de situation s'opère à Beni.
Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio émettant de Kinshasa. Non seulement ces phénomènes inquiètent du fait de son caractère dramatique, mais également du fait que jusqu'à ces jours, on n'arrive toujours pas à identifier avec certitude les assaillants. Vous avez suivi Félix Kabouzi qui dit qu'on n'arrive même pas à cerner, n'est-ce pas, les messages que ces gens veulent faire passer à travers ces actes.
Oui, en dehors du message, parce qu'il faut d'abord cerner, parce qu'on parle des ADF, Nalou. Bon, ce qui intrigue, c'est...
Les prétendus ADF, Nalou.
Oui, prétendus. Mais jusque-là, on n'a pas encore prouvé que ce sont les adeptes dans l'eau qui opèrent derrière ces gens. Parce qu'il y a changement de méthode d'exécution. Parce que ici, vous voyez, les adeptes, quand ils opéraient à Béni dans le temps, ils prenaient des otages, ils faisaient n'importe quoi, mais pas couper les gens à petits morceaux, et puis méthodiquement, et puis selon une certaine ligne de village à village. Donc la méthodologie est tellement très très compliquée qu'on ne sait pas cerner. C'est-à-dire, ici, c'est question. Après l'histoire de M23 où on avait une guerre classique où des troupes et tout ça, on a affaire à un groupe terroriste qui cible leurs victimes et veulent faire mal, très mal alors. Mais le problème, comme le grand frère Kabouz a dit, on ne comprend pas leur message. Qu'est-ce qu'ils veulent? Maintenant, l'autre problème, c'est ceux qui doivent enquêter. Ici, il faut changer de méthode. On doit enquêter plus. On doit mettre les agents de sécurité plus en mouvement que les troupes militaires. Parce que les opérations, ce sont des opérations de terrorisme qui sont différentes des opérations militaires. Et il faut aussi sensibiliser la population. Maintenant, la population est devant un fait. Ils ne sont pas discernés. Quand ils voient des troupes avec des uniformes, ils croient qu'ils viennent à leur secours, alors que ce sont des ennemis. Vous voyez que ça pose maintenant un grand problème au niveau de la gestion, de la logistique et tout ça. Est-il que, avec le problème des uniformes qu'on a retrouvé encore à Goma à divagation, ça amène encore une autre polémique sur la gestion du matériel militaire. Et vous verrez que Béni, ça devient un calvaire pour tout le monde. Qui sont ces gens? On a ciblé certains politiciens avec leurs adhérents, on les a arrêtés, mais le système continue, les tueries continuent. Est-ce que ces politiciens-là, quel intérêt ils ont de massacrer leurs frères de cette façon, d'une manière assez atroce comme ça, pour que demain ils aient le pouvoir? Donc il y a beaucoup d'interrogations qui se font, mais si vous cernez la question, vous verrez qu'il y a beaucoup de trahisons au sein de la population, au sein des forces armées, au sein... Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trahisons qui s'opèrent à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut cerner.
Merci. Clément Mangoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, hebdomadaire paraissant à Kisangani, province orientale. Deux faits semblent désorienter les experts, même les plus avisés. Le premier, c'est les modes opératoires utilisés. Albert Oma l'a relevé ici. Celui qui consiste à égorger, un mode qui n'est pas courant dans cette partie du pays. Et le deuxième fait, c'est le fait que personne n'a jusque-là revendiqué ces massacres. Et comment vous analysez ces faits, ces deux faits?
Bon, tout le monde sait qu'il s'agit là d'une forme de terrorisme qui ne dit pas son nom et dont les auteurs ne se dévoilent pas jusque-là, ils se cachent. Mais il faut dire que nous sommes dans une zone d'un business politique et économique. Économique d'abord parce que, comme l'a dit Félix, c'est la porte d'entrée de beaucoup de marchandises pour Goma, pour Kisangani, pour Bouta, pour Bumba et même pour Kisangani. Alors là, les affaires sont prospères et les gens ont tout intérêt à ce qu'il y ait cette confusion. Avec la confusion, ils font des gros bénéfices aussi. Mais sur le plan politique aussi, les terroristes qui continuent à se cacher pensent qu'un jour ils vont se manifester et on tiendra compte d'eux. C'est une forme de guerre qu'il faut au gouvernement. Et ça, ils pensent qu'au bout, ils seront reconnus et ils vont négocier certainement avec le gouvernement et le gouvernement va chercher à les approcher, à négocier avec eux. Ce qui ne serait pas une bonne chose. Parce que tuer ses frères pour des intérêts égoïstes n'est pas une bonne chose. Donc nous pensons que le gouvernement va plutôt continuer à intensifier l'offensive contre ces gens-là, l'offensive sur le plan de la sécurité, l'offensive sur le plan militaire et même chercher déjà à identifier les complices internes. Parce que parmi la population, il doit y avoir beaucoup de complices aussi. C'est elle-même qui organise les choses. Et c'est elle-même qui en est la victime. Donc il faudra que le gouvernement puisse jouer à tous ces niveaux-là.
Vous pensez que cette population a intérêt à partager avec ses assaillants?
J'ai un petit peu l'impression que c'est une population quelque peu fanatisée. et qui jouent les jeux des terroristes. Donc il y a une partie de la population qui doit être fanatisée et qui joue les jeux des terroristes, donc qui tire aussi profit de ces jeux-là. Donc je crois qu'on doit creuser davantage.
Et l'objectif serait quoi?
L'objectif est surtout politique, parce que ceux qui se cachent pensent qu'un jour ils vont se dévoiler et qu'ils auront voix au chapitre dans les affaires de la République démocratique du Congo.
Félix,
il faut continuer à déstabiliser cette zone-là, et comme ça, un jour, on va dénicher les auteurs, ou alors ils vont se dévoiler et ils vont chercher à négocier avec le gouvernement.
Félix Kabouzou, comment vous analysez l'aspect que vient de relever Clément Mangoubou? Ce serait pour ces assaillants une façon de faire chanter les gouvernements pour que l'on puisse se soutenir contre deux.
Bon, je pense qu'ils peuvent poursuivre plusieurs objectifs en même temps, hein. Par exemple, discréditer, n'est-ce pas, l'armée et le gouvernement, montrer qu'ils n'arrivent pas à sécuriser cette partie du pays, et en même temps soulever aussi, n'est-ce pas, ou retourner la population contre le pouvoir établi. Ils peuvent effectivement aussi avoir comme objectif, s'il y a effectivement des complicités parmi les acteurs politiques congolais, peuvent avoir comme objectif peut-être de venir un jour prendre aussi, n'est-ce pas, le contrôle de cette partie. Ça peut être, si vous voulez, des actes pour tester la capacité de résistance de l'armée, et si jamais il dénichait que l'armée n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de faire face à la puissance militaire qu'ils auraient, ils peuvent effectivement être tentés demain de faire un grand coup et carrément contrôler Beni. Ce ne serait pas la première fois que, n'est-ce pas, Beni ou Boutembo retombe entre les mains des groupes armés. Donc il est possible que ce soit des gens qui travaillent pour essayer de comprendre, de connaître la capacité de résistance de l'armée.
Et à quoi peut-on, à votre avis, attribuer le fait que certains commandants FARDC aient refusé d'intervenir quand les civils étaient en train d'être massacrés? Ça, c'est contenu, n'est-ce pas, dans les rapports des parlementaires qui reviennent des Beni.
C'est ça, tout l'énigme qui se trouve dans...
Il y a même Lambert Mende qui a dit qu'il y a des complicités à tout le niveau des institutions.
Mais bien sûr, mais lorsque l'enquête et, si vous voulez, le procès de Mamadou Dala a démontré que il y avait des complicités à un très haut niveau de l'armée, que ce soit ses propres frères d'armes qui l'ont trahi, on ne peut pas douter un seul instant qu'il pourrait y avoir des complicités au niveau de l'armée. Mais dans tous les rapports que les experts de l'ONU ont publiés autour de guerre à l'Est, on cite toujours parfois les plus hauts responsables militaires qui sont dans les trafics d'armes, qui sont autour des puits, n'est-ce pas, de cassiterite, de coltan, d'or, et ainsi de suite. C'est comme Mangoubou l'a dit, un véritable business qui se fait là-bas. Des gens qui sont derrière les ADF Nalou, s'ils ont de l'argent, ils vont acheter des renseignements militaires, n'est-ce pas, au sein même de notre armée. Ils vont acheter des armes parfois auprès de nos propres officiers. Donc, c'est devenu finalement une sorte de zone totalement incontrôlée où tous les aventuriers de tous bords s'y livrent à toutes sortes de trafics. C'est ça, malheureusement, la situation dans l'est du pays. Et hélas, ça dure depuis une trentaine d'années. Mobutu n'a pas été en mesure, n'est-ce pas, de faire face à cette situation. La guerre à l'est l'a balayé. Et Laurent Désiré Kabila, bien que étant lui-même le produit de ce qui s'est passé à l'est de cette guerre, lui n'a pas pu y mettre fin. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, Kabila Joseph n'arrive pas non plus à y mettre fin. Je pense qu'il va falloir qu'on convoque vraiment des états généraux pour qu'on réfléchisse sur ce qui se passe à l'est.
Albert Rumba, le fait que la population va se plaindre auprès des FARDC et qu'elle se rend compte que celle-ci reste passive, celle-ci ne font rien pour la protéger, est-ce que cela ne va pas poser la problématique de la collaboration entre les civils et les forces de sécurité? Pourtant aujourd'hui il est dit que cette collaboration est une condition sine qua non, n'est-ce pas, pour prévenir de nouveaux massacres.
Oui, c'est une condition. Vous verrez que il y a eu et notre mouvement qui fait que on veut prouver à la population, c'est-à-dire un des buts de tous ces massacres, c'est pour prouver à la population que nos forces armées ne sont pas capables, le gouvernement n'est pas capable de les protéger. D'où enlever toute confiance pour des buts que nous ne connaissons pas, peut-être pour l'avenir, et même savent qu'est-ce qu'ils visent. Alors, ce qu'on va demander à la population, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que vous verrez que la population, je rectifie ce que le confrère a dit, Clément, que la population est complice, tout ça. Non, la population n'est pas complice. C'est-à-dire la population ne sait pas sur quel pied se tenir, à qui avoir confiance. Vous verrez qu'elle a même renié la présence de la MONUSCO, elle a même mis à cause la présence des FARDC, c'est-à-dire c'est une population qui, à cause de tous les traumatismes qu'elle connaît, commence maintenant à douter de tout le monde. Et vous imaginez une population qui voit des troupes arriver, ils viennent les accueillir avec les uniformes, tout à croire que ce sont nos troupes loyalistes qui arrivent, et à l'instant qui suit, ils sont massacrés. Ils peuvent avoir confiance à qui maintenant? C'est ça la difficulté. Donc tout ce qu'il faut, c'est que la même population qui ne sait plus où aller, c'est le gouvernement qui doit renforcer ses capacités d'investigation pour connaître l'énigme. Quels sont les gens? Pourquoi ils ont utilisé cette méthode? Parce que dans l'État, on n'avait pas recouru au massacre pour dissuader la population. Maintenant, on recourt actuellement au massacre pendant que les FARDC, à coalition avec la MONUSCO, veulent mettre fin à l'existence de la DEF Nalu. C'est presque une victoire prochaine, une paix pour la région du Nord Kivu. Mais on fait tout pour que cette paix-là ne revienne pas. Donc, vous voyez qu'il y a des ramifications à gauche, à droite et au plus niveau. Il y a beaucoup de complicité aussi, surtout au niveau de nos forces armées, et c'est ça qui rend la chose plus compliquée.
Clément Mangoubou, comment vous expliquez cette situation quand on sait que tous les efforts du gouvernement en termes de défense sont concentrés dans les territoires des Béni? Est-ce que Omba n'aurait pas raison quand il propose qu'on puisse renforcer la capacité d'investigation, qu'on puisse mettre un accent sur le renseignement?
Oui, vous savez que l'armée congolaise venait de gagner une guerre contre les M23. Et la population sait que cette armée est capable de vaincre l'ennemi. Mais l'ennemi a changé de méthode, il a changé de tactique. Et l'ennemi, dans sa démarche aussi, utilise une bonne partie de la population. Donc, pour dire, écoutez, aidez-nous à faire... Mais les renseignements, comment ils obtiennent les renseignements? Et les gens qui sortent pour venir tuer, pour venir égorger. Il y en a certainement qui sortent de maisons à Beni même. Moi, je crois que les efforts du gouvernement sont à saluer, mais il faudra que le gouvernement soit soutenu par la population, que le gouvernement soit soutenu par les politiciens du coin, mais aussi par les services de renseignement qui devraient donner des informations fiables pour permettre à notre armée d'évoluer sur le terrain. L'ennemi ne veut pas de la guerre classique. Pour lui, il sait que avec la guerre classique, il perd. Mais il faudra procéder par le terrorisme. Les terroristes, on ne sait pas quand est-ce qu'il agit, quand est-ce qu'il peut frapper. Il surprend. Et vous comprenez? C'est ça la situation à laquelle nous sommes confrontés. Les Congolais sont confrontés. Et je pense que comme a dit Omba, comme je l'ai dit, mon confrère doit comprendre qu'il y a des complicités à tous les niveaux, et même au niveau de la population. Et les efforts là ne peuvent pas rester vains si la population s'implique.
Clément Mangoubou, certains élus, oui. Certains élus de Beni estiment qu'il faut chercher les auteurs de ces actes, pas seulement à Beni, pas seulement en RDC.
Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui a proposé même qu'il y ait une table ronde, gouvernement, politiciens de toutes les tendances, pour essayer d'examiner la situation et de chercher des pistes de solutions. Mais ceux qui se livrent à ce terrorisme ne sont pas nécessairement établis à Beni ni au Congo, mais ils peuvent être aussi ailleurs. Ils ne se dévoilent pas, mais ils savent ce qu'ils font. Ils font certainement jonction quelque part et ils agissent. Je crois que les terroristes ne sont pas seulement à Beni, ne sont pas seulement au Congo, mais peuvent être ailleurs aussi.
Merci.
Tout de même aussi les complices.
Oui, Félix Kabouzi, peut-on lutter efficacement contre les groupes armés étrangers et si on n'associe pas leur pays d'origine?
Moi, je pense que c'est un faux problème d'associer leur pays d'origine parce que ces pays-là les ont vaincus militairement et ils les ont déversés chez nous qui passons finalement pour être le réservoir de tous les groupes armés qui viennent des pays frontaliers. Vous trouvez chez nous les groupes armés burundais, les groupes armés rwandais, ougandais, soudanais, d'un peu partout, et même des peuples qui viennent en armes conquérir, n'est-ce pas, dans l'Ouélé, les Mbororo et autres. Alors, où est finalement la capacité de notre gouvernement à rassurer la population? Qu'est-ce que la mission première d'un gouvernement? C'est d'abord d'assurer, n'est-ce pas, la sécurité de la population dans les frontières, de sécuriser son propre pays. Mais lorsque 4, 5, 6 groupes armés étrangers viennent, qu'ils peuvent passer une dizaine d'années, une vingtaine d'années, comme c'est le cas avec les Interahamwe et autres, mais ça pose quand même problème. Pour moi, ça ne sert à rien. Vous allez collaborer avec quel pays? Le Rwanda nous a toujours compliqué la tâche sur le dossier des FDLR. L'Ouganda, mêmement. Je pense qu'il appartient à l'armée congolaise de démontrer qu'elle peut assurer la sécurité dans les frontières congolaises et mener, si vous voulez, un combat acharné. Bon, c'est vrai que l'armée peut avoir la volonté, mais elle peut ne pas avoir les moyens financiers notamment. Tout l'argent qu'on distribue ici aux fameux communicateurs de la majorité présidentielle qui investissent jour et nuit les chaînes de télévision, et de l'argent qu'on donne dans la propagande politique et consorts, ça peut être canalisé pour assurer la sécurité de la population.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, province orientale, le chef rebelle Banaloki alias Koto Matata s'est rendu le week-end dernier au FRDC à Bounia. Cet ex-seigneur de guerre en Ituri demande non seulement son intégration et celle de ses hommes au sein des FRDC, mais aussi l'amnistie. De son côté, le gouvernement congolais estime que cette demande est en étude. Pour plus de détails, écoute cet entretien entre José Deschartes Menga et Berry Franklin Luchaka.
José Deschartes Menga, bonsoir.
Bonsoir, Berry Franklin Luchaka.
Alors dites-nous, où en est-on avec la reddition de Justin Banaloki alias Cobra Matata?
Ce chef milicien a quitté son maquis il y a quelques semaines pour s'installer dans la localité d'Aveba. Aveba, c'est à 60 km au sud de Bounia. Vendredi dernier, il est arrivé à Bounia dans la nuit après moult tractations menées exclusivement entre les FRDC et les FRPI. Il a été reçu la nuit par le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, qui séjourne ici à Bounia, et qui a dit avoir reçu une mission particulière du chef de l'État à ce sujet. Aujourd'hui, Cobra est à Bounia avec juste 6 éléments, tandis que le gros de ses hommes, près d'un millier selon lui, est encore à Aveba avec ses armes.
Au stade actuel, peut-on parler de la reddition au vrai sens du mot?
Écoutez, Berry, ce mot a été utilisé, reddition donc, par des autorités congolaises. Le ministre Lambert Mende en premier. Mais sur terrain, des officiers FRDC ne veulent pas encore parler de reddition parce que les miliciens n'ont pas encore déposé et remis leurs armes. Ils ne sont même pas encore à la disposition des FRDC. Aujourd'hui, une délégation gouvernementale qui est partie à Aveba pour ramener un premier groupe de miliciens a essuyé un échec. Les miliciens ont refusé d'embarquer et de venir à Bounia. Une tension a même été observée entre les deux forces en présence sur terrain.
Et dans l'entretemps, qu'en pense la société civile?
Écoutez, la société civile se dit inquiète parce que ça piétine. Les miliciens ont reçu l'ordre des Cobra pour venir dans un camp des cantonnements à Bounia. Pourquoi ne veulent-ils pas venir? Cobra exige l'amnistie et la reconnaissance de ses grades. A-t-il obtenu satisfaction? Autant des questions bériques que se posent des observateurs. Signalons que ce n'est pas pour la première fois que Cobra propose au gouvernement sa reddition et que rien ne se concrétise sur terrain.
José Deschartes Menga, merci et bonne soirée chez vous à Bounia.
Merci, Berry Franklin Luchaka.
Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet de Kinshasa. Comment vous analysez cette annonce sur la reddition des Cobra Matata?
Bon, la reddition des Cobra Matata, vous attendez les échos qui viennent de là, que malgré toutes les assurances qui ont été données par Cobra pour faire la reddition, mais ces troupes ne sont pas, et qui se trouvent à Veba, ne sont pas encore disponibles. Et comment lui va négocier ici la reddition et dans quelles conditions il a négocié, et il laisse de l'autre côté ses troupes qui continuent à ne pas obéir à ses ordres? Vous verrez que jusque là il n'y a rien qui est clair. Or, cette population de cette contrée a beaucoup souffert avec les activités de Cobra Matata, et si le gouvernement a accepté sa reddition, mais dans quelles conditions? C'est ça la difficulté, parce qu'on n'a pas rendu public les conditions que le gouvernement a posées. Et il y a un flou dans ce dossier-là. Et on savait à l'époque que quand le gouvernement avait négocié avec le M23, on savait quand même qu'il y avait le M23 avait posé telle condition et que le gouvernement devait adhérer à telle condition. Et on a suivi l'évolution de ce dossier. Mais pour le cas de Cobra Matata, apparemment, il n'y a rien qui est connu de ce dossier-là.
Et pour le cas d'espèce, en fait, Cobra Matata, lui, il a posé comme condition son intégration au sein des FRDC, l'amnistie, n'est-ce pas, et puis la reconnaissance des grades.
Toutes ces histoires-là, les reconnaissances des grades, amnistie, c'est le gouvernement qui doit avoir des tacts. Je me souviens, parmi les premiers qui ont fait reddition à l'Ituri, c'est Jérôme Kouakou. Il est allé faire l'école d'officier à Kananga, il a été intégré dans l'armée, mais plus tard, la justice l'a suivi, il est aujourd'hui condamné. C'est-à-dire, tout ce qu'on devait faire d'abord, c'est la paix. Le gouvernement doit accepter les conditions de tous ces gens, c'est la question de les récupérer, et qu'il y ait la paix. Et si quelqu'un a connu beaucoup d'exactions, la justice va poursuivre son cours, même 20 ans, 30 ans après. C'est ça la grande difficulté, pourvu que cette contrée soit vraiment remis à paix. Parce que si Cobra Matata ou ses troupes qui vont faire réfraction, qui ne vont pas obéir à ses ordres, s'ils descendent vers Rengeti, ils font jonction avec les ADF et Nalou, vous voyez que la contrée va se brûler et à ce moment-là, ça ne va pas.
Félix Kabouzi, directeur de publication du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît à Kinshasa, Cobra Matata Serein. Mais jusque-là, sans ces hommes, sans ces matériels de combat, vous avez suivi Albert Omba et ça pose problème.
Oui, ça pose problème. Je crois que on est en plein dans le marchandage du type assez compliqué. En tout cas, que seuls les initiés peuvent comprendre comment un homme qui accepte de se rendre, et qui demande une amnistie, qui demande de réintégrer l'armée, il va poser des conditions en laissant ses troupes encore dans son maquis. Ça devient compliqué que finalement, c'est peu quelqu'un qui voudrait s'imposer par rapport à ses revendications, s'imposer à la nation, s'imposer à l'État. Je crois que ça, c'est des choses complètement inacceptables. On ne peut pas accepter qu'un homme, puisqu'il faudrait qu'on le rappelle, Cobra Matata ne va pas intégrer l'armée, il y a déjà été. Cobra Matata, c'est un ancien, n'est-ce pas, milicien de l'Ituri des années 99, 2002-2003. Il était déjà dans l'armée congolaise. Il a passé 2-3 ans ici à Kinshasa et puis il est reparti relancer la rébellion. Donc on dirait que c'est un multi-récidiviste, un professionnel, n'est-ce pas, de la rébellion, et on ne peut pas accepter qu'il s'impose à l'État congolais. Je pense que s'il est conscient de ce que ses actes ont causé pour ses propres frères de Walendu Bindi, où il a établi son maquis, puisque pendant des années ces gens ont souffert, comme on va l'a dit, plusieurs populations environnantes ont également souffert. S'il a pris conscience que ce qu'il faisait n'était pas bon, je pense que il devrait plutôt demander pardon et ne pas s'imposer à l'État. S'il veut réintégrer l'armée, mais ce sont des conditions qui doivent être examinées au niveau de l'état-major général de l'armée. Je ne pense pas vraiment que ce serait de bonne politique pour lui de s'imposer en laissant ses hommes derrière faire une sorte de chantage par rapport à l'État congolais. De mon point de vue, ce serait complètement inacceptable.
Clément Ngoubou, éditeur responsable du journal Mwangaza, est un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Et comment cette annonce de reddition des Cobra Matata, comment cette annonce a été accueillie dans la ville de Kisangani par la population?
Oui, dans la ville de Kisangani, la population a été un peu surprise d'apprendre qu'il faut qu'on se rendait auprès du gouvernement, auprès du gouverneur des provinces. Mais alors, les gens se sont dit, c'est bien, mais il a commis beaucoup d'exactions. Je crois que le confrère Omba l'a dit là-bas, il a commis beaucoup de crimes aussi. Et comme l'a dit Félix, il devrait commencer par demander pardon au lieu d'exiger de garder son grade de général qu'il a porté de lui-même, que personne ne lui a conféré, et de réclamer une amnistie comme ça. Moi, je crois que unilatéralement, il a fait des choses, et maintenant, puisqu'il doit discuter avec un partenaire qui est le gouvernement, il doit accepter les conditions. C'est d'abord le désarmement, c'est la démobilisation et la réinsertion si besoin en était. Parce qu'il n'était pas venu seul avec 20 hommes qui l'accompagnent, et il laisse tout l'arsenal militaire en forêt. Et surtout, il faut tenir compte de la considération que c'est une rébellion à base ethnique ou tribale. Là aussi, c'est un autre aspect qu'il faut examiner. Ce n'est pas pour rien que le gouverneur a parlé de la pacification des esprits, il faut amener des communautés à une même, autour d'une même table pour discuter et tout et tout. Moi, je crois que Cobra, il est bien accueilli, il est logé dans une villa, il se promène à travers Bounia, mais cela ne fait pas la joie de tout le monde. Il doit se rabaisser et regarder les choses en face. S'il veut rester dans l'armée, il négocie avec l'armée. C'est l'état-major de notre armée qui va lui présenter les conditions. On ne devient pas général comme ça. Donc ces choses-là doivent finir un peu aussi. Et on ne réclame pas une amnistie comme ça. Non, non, il y a une démarche à suivre, il y a des étapes à suivre. Je crois que jusque-là, le gros de cette troupe sont encore dans la forêt et le gros de son arsenal militaire est encore dans la forêt. Et donc, il risque de faire une sorte de chantage. C'est ce qu'il fait justement.
Albert Omba, il y a des experts qui pensent que si les conditions posées par Kobra Matata sont prises en compte, cela créerait un précédent fâcheux.
Oui, un précédent fâcheux. Normalement, Kobra devait se souvenir d'un autre chef milicien qui a fait la même scène, je crois, il y a 6 mois. Et quand on est allé le chercher, il sait dans quelles conditions le FARDC se soit énervé. Et il n'a pas pu terminer sa reddition. Il a terminé ça dans une civière. Donc, il ne faut pas qu'on revienne dans toutes ces histoires. Si Kobra Matata veut réellement faire reddition, il devait aller lui-même à Abeba avec les troupes, les FARDC, et on va constater. Et même avec les journalistes, que voilà, il y a autant de miliciens. Ils ont déposé tel arsenal militaire. Et on signe des actes aux vies, eux aussi, de tout le monde. C'est après maintenant qu'on peut l'intégrer dans l'armée, on saura comment s'arranger pour lui conférer un grade. Maintenant, l'armée, on ne donne plus de grade comme ça. Il y a un cursus à suivre maintenant pour avoir un grade. Le problème est qu'on arrête ces atrocités au niveau de cette contrée, parce que toute la contrée de Doromo, Veba, ces gens-là ont beaucoup souffert avec les miliciens de Kobra Matata.
Félix Abouzi, la population a beaucoup souffert du fait des actes de Kobra Matata, mais comment peut-on concilier l'impératif de la pacification, l'impératif de la réconciliation et la nécessité de rendre justice?
Non, je crois que ce sont deux notions qui ne s'excluent pas. Il faut travailler sur les deux dossiers, il faut effectivement organiser la pacification, organiser la réconciliation, mais en même temps, pour ceux qui ont commis des crimes, ils doivent être punis, ça n'a absolument rien à faire. Je pense que c'est plutôt même dans cette politique-là de plus voir les aspects politiques, les aspects de pacification en négligeant l'aspect, si vous voulez, juridique ou de punition, qui donne finalement des idées, qui fait que les groupes armés prolifèrent. Si ces gens-là pouvaient se rendre compte que chacun qui monte une rébellion, il ne finira pas nécessairement au grade de général, de colonel, et qu'il peut se retrouver à la CPI, il peut se retrouver pendant des années ici à Makala ou dans la prison, les gens réfléchiraient 2 ou 3 fois avant de s'engager dans la rébellion. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, rentrer dans la rébellion, c'est un jeu d'enfant. Non, je crois que ça ne devrait pas être ça.
Clément Mangoubou, finalement, qu'est-ce qu'il faut-il pour pacifier l'Ituri?
Pour pacifier l'Ituri, il faudra que le gouvernement continue ses efforts d'éducation des groupes armés nécessairement. Mais il faudra aussi que, comme a déjà amorcé le gouverneur, que les communautés se retrouvent pour parler, parce que je l'ai souligné, la rébellion de Matata a une base ethnique, et ça ne peut pas arranger d'autres groupes ethniques aussi. Je crois que le gouvernement va poursuivre son effort d'éradication de ces groupes armés, mais parallèlement, il faudra aussi mettre les gens ensemble, pacifier les esprits et demander que les gens se demandent pardon, qu'ils oublient ce qui s'est passé et qu'ils regardent dans la même direction.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique et Kaline Kouté à la réalisation. Sous la supervision de Julien Nyamouni, devant ses micros Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi.